ça veut dire la racine du Yetzerara, c'est un bien suprême. C'est ce qui le permet de pouvoir donner, recevoir. Si c'est dans cet ordre, le tikkun est fait. Ça va jusque-là ? C'est très simple. Je vais faire des analyses qui nous mèneraient trop loin, mais simplement je vous indique un autre sujet. Il suffit que quelqu'un soit heureux pour rendre heureux les autres. S'il est malheureux, il rend malheureux les autres. Vous avez compris à peu près le problème. Alors c'est ce tikkun-là dont il s'agit. Voilà, j'ai refermé cette parenthèse. Okay.
Pourtant on dit « Sheli shelcha, shelcha, shelcha ». Est-ce que ce n'est pas justement donner sans vouloir recevoir ?
Et cette Mishnah ajoute que c'est la Mida Benonit, « Veyesh omri midat sodom ». Je ne sais pas si tu te rappelles dans la Mishnah. C'est effectivement le sujet de cette Mishnah. Mais tu vois la marloquette qu'il y a. Ça veut dire que je vais essayer de vous donner un exemple sur cette question. Il y a un bien qui, lorsqu'on le donne, on le reçoit. Je change le vocabulaire. Qui, lorsqu'on le donne, on le perd pas. Et non seulement on le perd pas, il s'accroît. C'est quoi ? Vous savez, parce que je vous l'ai dit il y a 10 ans. La Torah. Et la Torah, c'est le seul bien que lorsqu'on la donne, on ne la perd pas. Et non seulement ça, en la donnant, elle s'accroît. Est-ce que c'est clair, Sylvie ? Et beaucoup de vertus qui vont dans cet ordre, en particulier l'amour. Et le Midrash a donné cette comparaison lorsque Moïse a passé ses pouvoirs à Josué, c'était la semaine dernière, vous vous rappelez, okay ? C'est comme... Non, c'est une autre chose. Et c'est comme quand, avec une bougie allumée, on allume une bougie qui n'est pas encore allumée. Et bien la bougie allumée a donné la flamme à la bougie non allumée, mais elle l'a gardée. Elle n'a pas perdu ce qu'elle avait. Que ner me abuka, dit le Midrash. Et toute cette dialectique du donner-recevoir, elle se trouve effectivement dans la Mishnah que tu as citée. C'est le point de départ de l'enseignement du Rav Ashlag et qui nous explique bien cela. On est rassuré de savoir qu'il y a une finalité à ce mal, mais elle n'est pas de faire que par contraste le bien est d'autant plus de bien. C'est tout à fait autre chose. Il y a une disposition des tendances qui fait que l'unité des vertus est atteinte sans en exclure la tendance à recevoir l'être, qui au contraire est sanctifiée. C'est-à-dire, dans le judaïsme traditionnel, le Shabbat, c'est le jour où on reçoit le plus pour pouvoir donner le plus. Je vais vous étonner. Le Shulchan Aruch, et c'est ça qu'on apprend de Kohelet qu'on a lu à Sukkot. Le véritable rite du Shabbat, c'est bien manger, bien boire, bien dormir, bien rire, bien chanter, bien étudier, bien prier. Et on est heureux. Quand c'est, est-ce que c'est clair ? Les grandes Hassidut, déjà le Hari, ont enseigné la nourriture du Shabbat a un goût spécial. Je ne sais pas si vous savez cela, Ken. Eh bien, il enseigne, les kabbalistes enseignent énormément de choses à ce sujet, de la sainteté de la nourriture du Shabbat. Et je referme la parenthèse parce que ça nous donne faim de cette nourriture du Shabbat. Voilà donc, en tout cas, pour la première analyse. Et je voulais vous donner tout de suite, oui, un exemple qui illustre ça, de ce décalage entre le monde de la vérité et le monde de la réalité. Mais j'espère, ce sont des sujets qu'il faut récupérer 100 fois, 101 fois plutôt que 100, pour arriver à les intégrer. Qu'on a déjà un peu senti que c'est l'enseignement de la Torah. C'est-à-dire, on est dans le principe de l'enseignement de l'unité du Créateur en tant que Boré et du Créateur en tant que Rossé. Et alors, il faut énormément de vie spirituelle pour arriver à intégrer dans l'économie de cette unité tout ce qui se passe dans le monde. Et qui est effroyable au niveau du Tohu Vabohu, dont le deuxième verset a parlé. Ken, oui, il y a une question. Ah oui, attends une minute. Non, c'était lui d'abord. Parce que Ken, à toi.
Tout à l'heure, tu as dit que lorsque c'est mal, c'est mal. Alors, à propos des sourires, par exemple, on voit des rabbins qui s'expriment.
Attends, allez, je vous ai corrigé pour être sûr. J'ai dit, le mal, ça fait mal.
Oui, voilà, alors, le mal, ça fait mal. Alors, comment il faut identifier ça ? Les rabbins s'expriment de la manière suivante.
Non, c'est pas ça. Pas. Hein ?
Lorsque les rabbins dans Talmud s'expriment en disant Gamzul et Tova.
Gamzul et Tova.
En parlant de quelque chose qui fait mal, en principe.
Écoute, je vais.
Comment il faut identifier ça ?
Oui. Toujours dans le même sens. Dans le zoo, Zou, il y a ce mal qui est mal. Et on souhaite que même ce mal qui est mal, et qui est mal en tant que mal, finalement arrive à être bien. Mais tant qu'il est mal, il est mal. Et alors, il faut une capacité de foi, c'est de Honiam Aragel, okay, il faut une capacité de foi considérable pour arriver à réaliser cela. Mais sachez, sachons, qu'on ne peut pas faire comme si ça va de soi pour l'expérience habituelle de tout un chacun. Ce sont des théodicées apologétiques, apologies du lien de Dieu, qui sont irritantes, qui gênent. Tant que quelqu'un a mal, il a mal. Et alors lui dire, tu sais, la purge est amère, mais quel remède, et c'est ridicule. Ça peut être dit de mille manières plus fortes encore, je m'y tiens. Ce sont des hommes exceptionnels qui sont capables de dire comme de Torah. J'ai connu des hommes qui ont, des femmes, qui ont énormément souffert dans leur vie. Et qui ont eu des moments de révolte, mais qui avaient de très longs moments d'arriver à dire « je ne sais pas pourquoi, il faut que je souffre comme ça, mais j'accepte ce que Dieu fait est bien ». Mais pour arriver à un niveau de sincérité à ce niveau-là, il faut être quelqu'un. Ce n'est pas Stam, un philosophe, qui va parler du contraste entre... C'est clair. Par exemple, je ne voulais pas la citer, mais tout le monde sait que c'est elle. Okay. Okay. Oui, alors, quel est le...
Quand vous parlez de l'église de mal, de la volonté de recevoir, je voudrais s'entendre de faire mal, de parler, est-ce que vous parlez de mal dans le sens de jouer de la vie, ou si on parle de mal dans le sens d'enfant qui souffre. Mais voilà, je suis difficile de parler de l'église de mal comme la volonté de recevoir.
Si je comprends bien la question, c'est la différence entre le mal et le malheur. Okay. Oui, et dans beaucoup de textes, il y a apparemment cette ambiguïté, par exemple dans la Gemara. La question de Moïse, tzadik vetovlo, tzadik verarlo, racha vetovlo, racha verarlo, et où le mot de rar, là, peut signifier le mal, peut signifier le malheur. Mais en fait, l'analyse du Rav Ashlag répond très directement à cette question. Oui, tout mal a pour racine le Yetzirara et les conséquences de ce que le Yetzirara a fait. Alors là, il faut ouvrir une échappée d'ordre métaphysique qui va me servir d'introduction à l'illustration que je voulais donner d'ailleurs tout à l'heure, et c'est ceci. C'est que si on fait, premièrement, si on fait l'analyse de tout mal dans le sens de choses mauvaises, mauvaise conduite, tout mal, quel qu'il soit, l'analyse réduit en fin de compte à une racine qui est toujours la même, avoir envie d'eux. Le mensonge, le meurtre, le vol, le viol, tout, n'importe quoi, c'est à la racine, il y a une envie de recevoir. Or, on est condamné à ce risque de la tendance au mal à travers l'appétit de recevoir, parce que sans appétit de recevoir, le monde s'arrête. On n'existe plus. Je crois que l'idée est claire. Vous connaissez ce midrash qui me revient par association d'idées, parce que c'est un autre sujet. Quand la prophétie s'est arrêtée, la Gemara dans Yoma nous raconte, la prophétie s'est arrêtée, l'idolâtrie s'est arrêtée. Quand on ne voyait plus, alors on ne voyait plus. Et donc on ne voyait plus les ombres. Donc, c'est clair. Okay. Et alors Ezra, c'est allé au temps d'Ezra, qui est la fin de la prophétie et le commencement du Talmud. Alors Ezra s'est dit, nous sommes dans un moment de chance, de mazal. Le Yetzirarar de la Avodah Zara a disparu d'Israël. Alors on va en profiter. Et il a demandé à Dieu, dans une prière célèbre, que le Talmud nous a conservé, que le Yetzirarar de Gilul Arayot disparaisse aussi. Que le Yetzirarar de la débauche disparaisse aussi. Et alors le Talmud, avec son humour habituel, nous dit, le lendemain, on ne trouvait plus un œuf au marché. La vie s'est arrêtée. Alors il a prié pour que le Yetzirarar de Gilul Arayot revienne, mais le Talmud dit, avant il était comme un lion, et maintenant il est comme un lion, mais les yeux crevés. Et ça veut dire il a plus cette capacité qu'il avait en ce temps-là, Pompéi par exemple. Pompéi, ça n'existe plus. Il y a bien Hollywood, mais à côté de Pompéi, c'est... Bon, je referme la parenthèse. Si on fait donc l'analyse de toute conduite de mal, à la racine, il y a un appétit d'être. Et semble-t-il, c'est le secret de la distinction que fait la halakha entre la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle, à propos des sacrifices. La faute bémézide et la faute bishgaga. Et seule, comme vous le savez, seule la faute non intentionnelle peut être rédimée, comme on dit en français simple, kapara, rachetée par les sacrifices. la faute bémézide, c'est un autre problème. Et la raison pour laquelle le korban se fait par la nourriture, c'est parce que c'est la nécessité de la nourriture qui mène toutes les fautes qui se font dans la société humaine. Et lorsqu'on parle de la nourriture, là, il y a une analyse parallèle à l'analyse marxiste sur la plus-value qui est très importante. Toute plus-value d'un objet de consommation est grévée d'un mal moral qui a été fait quelque part, entre tel ou tel intermédiaire, entre vendeur et acheteur. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? L'exploitation de quelqu'un. Okay. Je ne sais pas si les marxistes pensent moralement ce problème, au niveau du problème moral, mais leur analyse économique est très parallèle, que la plus-value résulte de l'exploitation. Et c'est pourquoi la déculpabilisation des fautes non voulues intentionnellement, parce qu'il faut manger pour vivre, comme dirait Molière, c'est l'avare, okay, machou casé, eh bien, vient de ce que nous sommes condamnés à manger pour vivre. Et alors le fait d'avoir envie de pain introduit dans la société des hommes qui se définissent comme homo economicus, si j'ose dire, comme il y a l'homo sapiens et l'homo tout ce que vous voudrez, eh bien, le mal que j'ai pas voulu faire, mais que je suis condamné à faire parce qu'il faut que je mange pour vivre. Alors on est déculpabilisé au niveau d'un repas pour lequel aucune faute n'a été faite, c'est les kodashim, le repas du grand prêtre dans le temple. Et ce qu'il faut arriver à comprendre au deuxième niveau, le niveau du malheur, c'est que l'être du monde a aussi, au niveau impersonnel, ces tendances que nous appelons, au niveau du nefesh, les yetzerara, de vouloir recevoir, ratson le kabel, vouloir recevoir. Je vais vous donner un seul exemple. Les modernes, ça leur est impossible de penser ces catégories, je vais vous analyser. Que l'être du monde est une personnalité qui a donc aussi le ratson le kabel. Il faudra longtemps avant que la science moderne n'arrive à récupérer ces catégories qui étaient connues dans les traditions anciennes, même en dehors de la tradition d'Israël, mais qui sont perdues dans les traditions des autres traditions, si j'ose dire. Je vous donne un exemple. Ceux d'entre vous qui ont eu la précaution d'apporter un livre, parce que, comme nous ne sommes pas chez nous, les livres ne sont pas là, si vous avez le texte avec Rashi, vous suivez, sinon je vous le dis à bord. C'est un midrash très classique que cite Rashi, et ça nous mènera à notre problème. Ça va donner le vertige. Mais on va essayer de... comment ? C'est... je vais vous donner le verset dans le premier chapitre. C'est le verset 11 et le verset 12. C'est un thème très connu que vous allez reconnaître d'ailleurs. Alors, Vayomer Elohim, au verset 11. Et Dieu dit, Tatché ares déché, que la terre produise de l'herbage, Esev, de l'herbe, Masri Arzerar, qui porte semence, Espéri, un arbre fruit, Oseperi, faisant fruit, les minots, suivant son espèce. Achez Arobo, et porteur de semences, à l'arrêt sur la terre, Vaïchen, il en fut ainsi. Petite parenthèse avant d'aller plus loin. Vous voyez, ce terme de Vaïchen, il en fut ainsi, c'est la clé de l'analyse que nous avons eue tout à l'heure. La différence entre le projet et la réalité. Dans vos Bibles traduites, lorsqu'on traduit « il en fut ainsi », ça a pris en français moderne le sens « c'est ce que Dieu a voulu qui a eu lieu, il en fut ainsi ». C'est clair ? Alors qu'en hébreu « vaï chen », il faudrait traduire « il n'en fut qu'ainsi ».« Chen », ça veut dire « comme ». Est-ce que c'est clair ? Et nous aurons aussi, en haletant encore, dans le deuxième exemple, mais je ne sais pas si je vais y arriver, un autre exemple. Une partie de la création est sanctionné par Vaïchen. Il en fut ainsi. Et ça veut dire il n'en fut qu'ainsi. Vous voyez le quasi qu'il y a dans la réalité par rapport à la vérité. Je reviens sur la définition des catégories épistémologiques entre la mathématique et la physique de tout à l'heure. Vous savez que la loi mathématique se vérifie dans le phénomène physique, mais aux conditions de l'expérience près. Il y a toujours une marge d'erreur que les physiciens appellent, si je me souviens bien, delta ou maché ou casé. C'est bien ça ? Epsilon. C'est epsilon. Epsilon. L'infiniment petit de Margera. Alors il y a toujours cet epsilon de décalage qui fait que finalement, La loi mathématique s'applique au phénomène physique, mais à peu près, quasi. Et alors, c'est vaïchen. Ça veut dire le que soit au niveau de vérité est absolu. Au niveau de la réalité, c'est comme. Si j'ai réussi à vous indiquer cela, c'est quasi. Et nous allons voir effectivement que dans le verset qui dit la réalisation de ce projet des arbres fruits, il y a un décalage. Et ce que dit Rachid à ce sujet en citant le Midrash. Verset 12. Batot se'aret déchets. Et la terre produisit l'herbage, et c'est mazriar zera, l'herbe porteur de semences, les minéus selon son espèce, ve'et oseperi, et arbre faisant fruit. L'expression arbre fruit a disparu. C'est-à-dire, le projet, c'est que l'arbre soit fruit, la réalité, c'est des arbres porteurs de fruits. Et il y a toute une philosophie dans ce décalage. Et je vais essayer de relier cela à ce que dit le premier psaume, en parlant du tzaddik, Ashrei Haïch, heureux l'homme qui, c'est, il y a une expression, Ve'alehu loibol, et sa feuille ne se flétrira pas. Il y a une espèce de drame dans, au point de vue de la finalité de tout ce qui existe. Vous voyez, l'arbre a des branches. Les branches portent des feuilles. Les feuilles ont des fleurs. Les fleurs ont des fruits. Alors, combien il faut de branches pour qu'il y ait des feuilles? Et combien de feuilles pour qu'il y ait des fleurs? Et combien de fleurs pour qu'il y ait un grain qui donnerait un fruit? Vous voyez, au niveau de la finalité, il semble qu'il y a un gaspillage de arbitraire, de destinée arbitraire, pour arriver à un fruit qui recommencera le cycle. Et entre-temps, le drame de la feuille qui n'a pas pu être fleur, et le drame de la fleur qui ne sera pas fruit. Il ne faut pas raconter ça, ça donne le vertige. Et alors, ce que promet le premier psaume, c'est que le juste sera comme un arbre dont les fleurs, dont les feuilles sont aussi importantes que les fleurs, et les fleurs aussi importantes que les fruits. Une espèce de prévision d'un monde de non-gaspillage, de prodigalité, mais qui, en fin de compte, retombe sur le sort de tout un chacun qui n'est pas traversé par la certitude que c'est lui le fruit. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et. Sira? Oui, mais un arbre avec des feuilles qui flétrissent, c'est pas beau. C'est pourquoi le verset dit. Vers l'éhuloïbol, et sa feuille ne flétrira pas. Les feuilles non caduques, comme on appelle ça en français, perpétuelles, je veux dire. Persistantes, c'est très beau. Au moins, ça sert à quelque chose. Okay? Et puisqu'on sort du loulab de Sukkot, okay? Et avec ce symbolisme qui est plus que symbolique, que les quatre catégories ont leur finalité. Mais il faut le voir que. D'ailleurs, pour le Midrash, ce fameux arbre dont la feuille ne flétrit pas, c'est le cédra, okay? C'est le hétrog. Mais que l'arava aussi aurait un sens. Chacun a sa place, mais au mec a un sens. Tandis que ce non-sens de ce qui s'est flétri, comme on disait à Alger, beau, beau, beau. Et on revient au... C'est pas beau. On revient au sujet. Donc. Oui, Vayechen. Alors, le verset de la réalisation montre que le projet d'arbre-fruit ne s'est pas réalisé. Dans toutes les traditions antiques, on trouve qu'il y a un arbre-fruit qui est adoré. Ça veut dire quoi un arbre-fruit? Va dire le Midrash que cite Rashi. L'arbre a le goût du fruit. Dans nos civilisations, on connaît que la réglisse. Le bâton de réglisse a un goût de fruit. Et je reviens. Il y a dû avoir une société primitive, dite primitive, qui adorait la réglisse. Pourquoi pas? À Zan et Rolamo, ils en ont fait le Zan. En tout cas, pour revenir à notre sujet, je vous lis Rachi. Prenez Rachi sur Esperi. Chei et ta'ama est que ta'ama pri. Que le goût de l'arbre soit comme le goût du fruit. Vehi, l'eau astaken, et elle, la terre, n'a pas fait cela. Et là, batot se arrête de gomer, et la terre a sorti d'elle-même, vehet, on s'est péri, un arbre faisant fruit. Vous voyez le décalage? Velo, vehet péri, et non pas un arbre fruit. Les firar, keshenit kalke la dame, c'est pourquoi lorsque l'homme a fauté, al avono, sur sa propre faute. Nifkeda gamhi al avona. Elle a été jugée, elle aussi, pour sa faute. C'est un rachis difficile, parce que ça implique que la terre, l'être du monde, a une personnalité que l'on juge, que l'on punit, qu'elle est consciente, qu'elle est libre, qu'elle a des tendances, elle peut obéir, ne pas obéir. C'est une notion qui est complètement étrangère à la mentalité moderne. Que le monde est un être vivant et qui a par conséquent le Yetzirah. Alors le Yetzirah du monde mène au malheur. Le Yetzirah de l'homme mène au mal. Alors ça nous dépasse infiniment. Mais au moins nous voyons que les rabbins savent de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent de ces problèmes. Et ça s'apprend là où ils étudient, les rabbins. Mais on voit qu'il y a Rashi à juger, il faut que les simples juifs, les simples fidèles, aient trace de cela. Il nous cite un midrash énorme dans son commentaire populaire soi-disant. Vous voyez à peu près le problème. Alors ça veut dire qu'effectivement, je vous citerai encore une remarque qui va peut-être atténuer la difficulté. Lorsqu'on lit le Maaseh Bereshit des 6 premiers jours, on a l'impression que le monde change de jour en jour, qu'il est plastique, qu'il y a une sorte de liberté diffuse, qui est le monde est modelable. Et puis, au moment du Shabbat, tout se fige. Ça devient la nature qui fonctionne avec des lois déterminées. Tout se passe comme si la part de liberté diffuse dans le monde, dans l'univers, se réfugie chez l'homme. Il n'y a plus que l'homme qui est, au nom de l'univers tout entier, l'être libre, jugé par rapport à toute la création. Ce sont des notions qui nous dépassent, mais en tout cas, elles sont suffisamment claires pour comprendre ce que Rashi veut nous transmettre en citant ce midrash. Ça veut dire qu'il y a donc avon dans la terre. Il y a donc un niveau du problème moral, au niveau de l'inerte, au niveau de l'impersonnel, la terre n'est pas inerte, au niveau de l'impersonnel, qui nous dépasse infiniment. Et ce qu'enseigne la Kabbalah à ce sujet, c'est que l'état moral du monde, quand je dis le monde, c'est l'univers du monde extérieur, dépend de l'état moral de l'homme. J'ai beaucoup étudié ce sujet avec M. Gordin, que je vous ai cité. C'était au temps de la guerre d'Espagne. Vous vous rappelez de la guerre d'Espagne? Guernica, ça vous dit quelque chose? C'est au moment où les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale s'annonçaient. Ils faisaient des travaux pratiques, les Allemands et les Italiens, là-bas. Il y avait eu déjà des horreurs dans la Première Guerre mondiale, mais la guerre d'Espagne, c'était déjà... Bon, bref. Et alors Monsieur Gordin, je veux dire quelques mots de son histoire. C'était un réfugié russe qui s'était réfugié en Allemagne pour échapper aux révolutionnaires russes. Et donc, sa culture d'origine était russe. Et il s'est installé en Allemagne, il a dû fuir l'Allemagne pour fuir le nazisme. Et finalement, il est arrivé en France. Et il a dû, en France, quelques années à peine, il a été libre comme réfugié. Et puis après, les Allemands ont occupé la France. Il a dû donc, à troisième niveau, se réfugier dans le maquis. C'est là qu'il a rencontré le mouvement des éclaireurs, qui a été le maître du mouvement des éclaireurs, et donc il a été notre maître. Et il parlait 6 langues à la fois quand il parlait, parce qu'il ne parlait pas français. Et le mystère du miracle des mystères, c'est qu'on le comprenait. Alors il avait dans une phrase, il avait un mot russe, un mot grec, un mot latin, un mot anglais, un mot espagnol, un mot portugais. Bref. Et on arrivait à le suivre d'après les versets qu'il citait. Donc, et alors il nous disait, plus on mange cachère, moins il y a de 100 versets. Et pensez à l'Espagne. Plus on donne la charité, plus les fleurs sont belles. Quel rapport? Eh bien, pour une mentalité moderne, il n'y a pas de rapport. Mais c'est ça la foi du monothéisme. Il faut y croire. Et avec l'expérience de la vie, on finit par se rendre compte de quoi il voulait parler. Est-ce que c'est clair? Mais vous lisez ça en clair dans le Kriyat Shema. Si vous pratiquez mes commandements, si vous observez mes commandements, je donnerai la pluie en son temps. Quelle mentalité primitive! J'observe la morale et la pluie tombe, quel rapport? Vous voyez, le moderne a perdu cela. Bon, ça me rappelle une histoire orthodoxe. C'était un orthodoxe qui s'était assis dans un champ et il attendait que l'herbe pousse. Alors un copain est passé, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il s'est écrit dans le Kriyat Shema, si tu as observé mes commandements, je donnerai la pluie dans ton champ, l'herbe dans ton champ. J'ai observé les commandements, j'attends que la, colère. Je referme la parenthèse. Mais vous avez compris la leçon. Alors son ami lui a dit, mais prends une pelle, prends une pioche. Ah, il faut être sioniste en plus. Alors, je reviens au problème. Voilà, c'est donc ça répond un peu à votre question, mais évidemment, ça nous dépasse. Ça, je n'ai pas réfléchi jusque-là, je dois vous dire, mais ça indique surtout qu'il y avait autonomie de la Terre. Mais je vais réfléchir à votre question. Comment on pourrait relier à Oetzerarar, Ken ? Non. Ken. Surtout une incapacité d'être, un manque de courage d'être. Ken. À la rigueur, on acceptera d'avoir des enfants. Mais c'est moi qui existe, c'est moi l'arbre. Quelque chose de cet ordre. Ken.
Ce que vous avez dit à propos de l'humain qui est dans le monde, du niveau moral de l'homme, du niveau de la personne du monde, c'est après la question. Ici, c'est une autonomie, une grande autonomie qui a amené à la. Comment dirais-je à Rava, avancée, qui avait une espèce de.
Rava? Mais on n'a pas parlé de ça.
C'est-à-dire que la faute de la Terre, hein, est à l'origine de la faute de l'homme.
C'est pas ce que Rachid a dit, doucement. Rappelle-toi Rachid. Rachid a dit que tant que l'homme n'a pas fauté, la Terre n'a pas été punie. Mais c'est quand l'homme a fauté que la faute de la Terre a été comptée. J'ai compté avec un MP. J'ai indiqué cela en disant que il y a un lien entre que la part de liberté du monde est jugée dans l'homme. Mais c'est un niveau de définition des catégories du problème moral qui nous dépasse infiniment. J'ai simplement voulu ajouter que c'était très familier aux sociétés dites primitives. Par exemple, vous savez qu'il y a des saints qui font tomber la pluie. Vous savez cela, hein ? Et j'en ai connu un. Et alors, il nous disait que des petites choses à ce sujet. Il disait, voilà, il s'isolait, montait sur une terrasse, il faisait la paix en lui-même, alors le ciel se pacifiait et la pluie tombait. Et il pouvait savoir s'il avait réussi à faire la paix en lui-même. Alors il descendait de la terrasse, il disait, la pluie tombera ou la pluie ne tombera pas. Il nous avait expliqué ça. Alors, pour un moderne, bon, ça, quand quelque chose est expérimenté comme ça, on est sûr. Mais pour un moderne, l'idée que la pacification intérieure des hommes fait que les saisons sont régularisées dans le monde extérieur, c'est de la mentalité primitive. Est-ce que c'est clair ? C'est pourquoi je vous le signale, qu'il n'y a pas de doute que la réponse est de cet ordre, mais ça dépasse les catégories de la culture contemporaine. Alors, ce que tu dis, toi, c'est que est indiqué par Rashi, mais de façon un peu différente. Ça veut dire, tant que l'homme n'est pas en jugement, eh bien, la faute de la Terre n'est pas comptée. Et puis, finalement, ce serpent, d'où il sort ? Ce serpent, d'où il sort ? C'est encore un mystère. Il sort de la Terre. On pourrait dire comme ça, c'est plus qu'une image. Non, c'est le verset 24. Lorsque, au verset 24, Dieu dit que la terre sorte Nefesh Chaya, la personne vivante, Ken, finalement la terre n'a réussi à sortir qu'un serpent. Il a fallu attendre le chapitre 2 pour que Dieu dise, puisque la terre n'arrive pas à faire l'homme, je vais le faire moi-même. Naaseh Adam Betsamenu, Vayi Adam le Nefesh Chaya. À la fin du verset 7 du chapitre 2, et l'homme devint Nefesh Chaya. Mais vous verrez que là, dans le projet de Dieu pour la terre au sixième jour, elle devait sortir d'elle-même le Nefesh Chaya, l'homme. Elle ne sort que le serpent. Ve'anachash haya arum mikol hayat asadeh. Alors d'où il sort ce serpent ? Il sort de la terre. Et puis c'est un drôle de serpent, parce qu'il parle, Dieu lui parle, il prophétise. Bizarre, on ne sait pas ce que c'est. Ken ? Nahon ? Disons... Non, je ne veux pas dire. En tout cas, voilà pour ce premier exemple. Je vais voir quelle heure il est. Cette réunion a encore le temps.
Est-ce que tu as dit sur la différence entre le Olam HaEmet et Olam HaMetziut, est-ce que c'est un rapport avec ce que le Rav Soloveitchik appelait les deux créations, avec la création par Hachem et Hachem Elohim?
Je t'avoue que je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas en tête ces deux chapitres sur les deux hommes du Rav Soloveitchik. Il y a longtemps que j'ai lu ça. Peut-être que c'est parallèle, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est intentionnel. Oui. Je ne crois pas que c'est intentionnel chez le Rav Soloveitchik. C'est un niveau existentiel différent qui formule cela. Il faudrait que je relise le texte pour pouvoir te répondre.
Lorsque Dieu dit que...
Parle plus fort.
Lorsque Dieu dit de la terre qu'elle fera pousser des ronces, etc.
Après la faute de qui?
Après la faute de l'homme.
Oui.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté de la part de Dieu que de mise à l'épreuve de l'homme par la terre?
Ça pourrait être dit aussi comme ça. Ça pourrait être dit aussi comme ça, mais je crois que ça se relie aux questions que j'ai posées tout à l'heure. C'est que lorsque l'homme faute, la terre est atteinte. Le résultat de la faute de l'homme, c'est le malheur du monde. Je vais vous raconter un midrash de la Kabbalah, qui est dans le Zohar, qui est cité par le Shlah, de façon assez extraordinaire. Il dit ceci, à propos de notre thème, est très important. Normalement, je dis un peu en termes de Zohar, mais en interprétant tout de suite. Le char, la Merkava, qui supporte la Shrina, la présence de Dieu dans le monde, ça devrait être l'homme. Mais l'homme n'est plus capable, alors ce sont les anges. Ce sont les anges qui sont la Merkava. Mais, comme ce n'est pas leur travail, ils sont dans l'angoisse. Et ils ont peur. Et ils ont des larmes de feu, des gouttes de feu, de transpiration de feu qui tombent de leur front, et chaque fois que sur terre une de ces gouttes de transpiration de feu tombe, il y a un malheur. Mais d'une autre manière, c'est la même idée, le même thème. Ça veut dire, lorsque l'homme n'est pas à son endroit, alors il y a des malheurs dans le monde. Maintenant, comment comprendre le lien? C'est une science qui nous dépasse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des sages qui ont connu comment ça marche, si j'ose dire. La science de cela. Le lien entre la faute de l'homme et les malheurs de la terre. Mais il faut le dire en clair, ça nous dépasse. Ne cherchez pas à y penser. D'abord, ça risque de donner le vertige. Et puis, c'est un vertige dont on ne connaît pas les trop fautes, comment on dit ça, les médicaments. Ni l'aspirine, ni l'inspirine. Mais il est clair que si Rashi, en son temps, il y a à peine 1000 ans, c'est pas si loin que ça, si Rashi, en son temps, a jugé c'était nécessaire qu'on entende ça, qu'il y a un lien entre le manque de vertu et le fait que les fleurs n'ont plus de parfum. Et comment ça marche? Or, on ne peut pas nier que nous vivons dans un temps où les fleurs n'ont plus de parfum. Moi, quand j'étais enfant, je me rappelais que les fleurs avaient du parfum. Il y a encore quelques petits jardins, ça et là, c'est des jardins secrets, discrets, où les roses ont encore un parfum de rose. Mais maintenant, on vit en plein dans les parfums artificiels. Vous avez remarqué ça? Ouais, jasmin, voilà, ça c'est encore des fleurs qui n'ont pas été atteintes par la faute de l'homme. Mais je me rappelle du parfum des roses dans les rues, okay, et ça n'existe plus. Même le pain a changé de goût, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, il ne faut pas trop exagérer, ça ferait un peu du romantisme attardé, mais il n'y a pas de doute, c'est indéniable, que on ne peut pas ne pas noter les deux faits. Dégradation morale, dégradation naturelle. Y a-t-il un lien? Les philosophes disent mentalité primitive. Bon, c'est point final. Ken.
Les philosophes orientales, sur lesquels je ne sais pas grand-chose, c'était ce qu'on apprend par la modernisation, semblent insister sur ce lien. Alors, quel serait à cet égard la différence entre la pensée hébraïque et...
Aucune, il n'y a pas de problème. Je me rappelle d'une anecdote. Il y a très 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 longtemps, quand j'ai connu les juifs français... Et moi, j'arrivais d'Afrique du Nord. Et puis, j'ai connu des juifs pratiquants, mais qui étaient très, très inquiets du décalage entre ce qu'on pourrait appeler le niveau de la pensée juive, un niveau Bar Ilan, Ramat Gan, vous voyez, le niveau du jardin d'enfant, et le niveau de la philosophie cartésienne, Kant, Spinoza, très inquiet de ça. Et je me rappelle qu'il y avait quelqu'un Moi, j'avais réagi très facilement en disant, il n'y a pas de mystère. Vous avez un Rabbi Akiva de l'âge du Talmud Torah et vous voulez le comparer à un Descartes de l'âge de la maturité. Prenez un Rabbi Akiva de l'âge de la maturité et même Descartes de l'âge de la maturité. Ça suffit. Et comparez à ce niveau-là. Mais ils n'avaient pas idée que Rabbi Akiva pouvait avoir l'âge de la maturité. Ils connaissaient un Rabbi Akiva du Talmud Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, il y en a un qui m'avait dit qu'il avait trouvé dans Descartes quelque chose qui ressemblait à ce que son rabbin lui avait raconté et qu'il était très content d'avoir trouvé ça dans Descartes. Et il m'a dit, ça vous rassure pas? Il dit, ça me rassure pour Descartes. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas réaliser le drame en ce temps-là dans le judaïsme européen. Maintenant, ça a changé. Mais en ce temps-là, il y avait une angoisse de ce décalage. La pensée juive, c'était Yaldouti, enfantin, infantile. Okay, tu te rappelles de ce journal qui s'appelait Eliassin? Tu te rappelles de ça? Voilà, c'était ce niveau-là. Okay. Et puis, alors qu'à l'université, bref, vous n'avez pas la chance que vous avez d'être né dans une autre génération. Et voilà donc pour cette question. Mais je crois que je n'ai eu le temps que d'analyser la première notion que je me proposais d'analyser, donc rendez-vous l'année prochaine. Mais on a encore un petit quart d'heure. Si vous avez des questions sur la paracha, pas sur ce sujet, il n'est pas épuisé, mais enfin, on peut passer à un autre ordre de préoccupation. Après, je vous proposerai de rester faire arbitre, comme nous avons l'habitude à Yaïr, et ceux qui veulent faire arbitre avec nous. Mais avant cela, Alain aura quelques indications à vous donner pour ce début de programme. Enfin, tout arrive, on a commencé l'année à temps, grâce au Machon Triskiyahu. Mais j'espère quand même, Alain vous le dira plus en détail, que ça pourra démarrer dans quelques jours. Mais vous avez la parole encore pour un quart d'heure. Ken.
Je voudrais faire une remarque à propos de ce que disait Madame sur les philosophies orientales. Il me semble que le mot Tov en hébreu, ça a aussi une signification d'harmonie, de complétude. En tout cas, dans la manière dont il est aujourd'hui utilisé, notamment dans la littérature hébraïque moderne. Et dans les philosophies orientales auxquelles je m'intéresse particulièrement, effectivement, l'harmonie, c'est le fait qu'il y a un parallèle entre la situation du monde physique et la situation interne
du monde spirituel.
Dans le monde physique. Et c'est en ce sens que je pense effectivement que la pensée hébraïque est peut-être beaucoup plus proche des philosophies orientales que des philosophies européennes.
Moi, j'ai l'habitude de dire un peu l'inverse, que dans les philosophies orientales, il y a quelque chose de matim, de convergent avec la tradition hébraïque. Je me suis déshabitué depuis très très longtemps de parler dans le sens inverse.
Peu importe le sens, oui. L'essentiel.
Parce que c'est quand même très différent. À un certain niveau, c'est vraiment une pensée idolâtre, même lorsqu'elle est athée, parce que, par exemple, le bouddhisme est plutôt athée qu'une religion, d'une pensée idolâtre polythéiste. Mais du point de vue de la sensibilité spirituelle, il y a beaucoup de convergences qui sont perdues dans les traditions occidentales. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé à l'origine, mais elles ont été perdues. J'ai trouvé quelque chose d'analogue à ce que vous voulez dire. Déjà, dans la Grèce antique, l'expression « kalos kagatos »,« beau et bon », c'est « tov et tuv » en hébreu, et bien dans le « agatos » du grec, il y a un peu ce sens que vous dites. Ken? Parlez plus fort.
Les hindous. C'est chaud. Ça va. Moi, je trouve que ça va plutôt vers la mort.
Enfin, oui, c'est cela.
Le judaïsme, c'est le choix de la vie, c'est le choix de la mort.
D'abord, c'est très différencié. Attendez.
Qu'est-ce que vous appelez le choix de la mort? On va vers le néant,
vers le nirvana. Nous, on choisit. C'est dit dans la Torah, tu choisiras la vie afin que tu vives. Jamais là-bas, on dit tu choisiras la vie, tu vives. Pourtant, tu vas vers le nirvana, tu te dissous.
Il y a de ça. Vous savez, c'est un monde très différencié. Et qui a énormément de siècles de traditions différentes, d'évolutions différentes. Le brahmanisme et le bouddhisme, par exemple, c'est très différent. Le shintoïsme et le zen japonais, c'est très différent. Et je vous citerai un proverbe chinois qui va un peu dans ce sens-là, mais c'est surtout le bouddhisme que j'ai étudié. Et je vais vous dire, j'ai trouvé une sensibilité intellectuelle, en tout cas très proche de l'humour juif. Mais je dirais la différence dans votre sens tout à l'heure. Proverbe chinois qui disait « Il vaut mieux être assis que debout, couché qu'assis, et mort que couché. » Et ça va un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire la recherche de l'évacuation des douleurs que la vie entraîne. Et le bonheur thermo-occidental, le bonheur souhaité, c'est ne plus rien éprouver. Et alors, l'oriental en général, et là je re-généralise, l'oriental en général cherche à se conduire bien dans la vie pour ne pas revenir en réincarnation. Alors que l'occidental, c'est la terreur de ne pas avoir fini les réincarnations. Quoi, encore. Alors que l'occidental a tendance à se conduire bien dans la vie pour ne pas disparaître. Vous voyez la différence de sensibilité. Il y a deux polarités assez différentes. Ce que j'ai remarqué, moi, et ça m'a été confirmé par beaucoup de juifs, d'ailleurs, qui ont beaucoup fréquenté ces spiritualités extrême-orientales, je ne sais pas si on peut les appeler philosophie, je ne sais pas si on peut les appeler religion, mais ce sont des spiritualités, c'est que ce qui manque, c'est le rire. Ce qui manque, c'est la joie. Et il y a une certaine dignité hiératique dans l'ennui de sacristie. Je ne sais pas comment dire ça, mais en fait... Si, par exemple, vous entendez le gong des talapoins, c'est les prêtres de je ne sais plus quel, les talapoins, ça me revient que... c'est sinistre à force d'être profond. Mais c'est sinistre. Ça n'a rien à voir avec le chauffard. Il manque ça, il manque simcha. C'est très proche de ce que vous avez dit. Bah, la racine, c'est la vie, bien sûr. C'est la vie spirituelle triste. C'est trop sérieux pour être sérieux. Quand c'est trop sérieux, c'est que c'est pas sérieux. Je sais pas comment dire ça. Okay? Je crois que l'humour juif, c'est ce qui nous a permis de traverser l'histoire. Et à quoi ça consiste l'humour juif? C'est ne pas se prendre au sérieux, tout simplement. Parce que se prendre au sérieux, ça empêche de prendre les valeurs au sérieux, puisqu'on se prend au sérieux. Alors on a tout de suite, on disait ça en judéo-arabe, en Algérie, je ne sais pas pourquoi le patawet me revient, on appelait ça Bab Bazel Kbir. C'était le nom qu'on donnait au pop, Bab Baz. Le pop, vous voyez, un pop, c'est pas sérieux, c'est trop sérieux. J'ai dit ça en prononciation ashkenaz, mais ça veut dire...
C'est ça qui s'habille en noir et avec un silane dans toute la tête.
Il y a des juifs aussi. Mais... Très clair. Il y a le Shabbat de la terre. Alors c'est quelqu'un, la terre, elle a besoin de son Shabbat. Et elle réclamera son Shabbat si vous ne lui donnez pas. Ce sont des versets très clairs. As tirtse arete shavetotea. Et bon, c'est cette idée-là que le monde est un être, le moderne a peur de regarder ça. Okay? Mais vous avez des expressions qui sont passées dans, on appelle ça des idiomes hébraïques, mais c'est pshat. Pi haaret, la bouche de la terre. Ervat haaret, la nudité de la terre. En haaret, l'œil de la terre. C'est quoi ça? Eh bien, ça s'apprend ailleurs, mais ça s'apprend. Okay? Par exemple, l'Égypte est appelée la nudité de la terre dans le vocabulaire biblique, dans les récits de la sortie d'Égypte. Donc,